Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez Radio Campus Tour. Bienvenue dans Sortez, la quotidienne socio-culturelle. Nous rencontrons aujourd'hui Anna Krikoun, chargée d'enseignement à l'Université de Tours, dans le cadre du parcours Art du spectacle. Elle nous présente les projets qu'elle a développés avec ses étudiants au cours de cette année universitaire et un appel à participation pour une exposition collective. Avis à tous ceux d'entre vous qui ont un projet culturel pour investir ou réinvestir la ville de Tours. Bonne écoute sur Radio Campus Tours. Anna Krikoun, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous voulez déjà nous dire quel est votre rôle au sein de l'Université de Tours ?
Bien sûr. Cette année, j'ai eu la chance et le privilège d'être ATER, donc attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Tours, où j'ai intervenu surtout dans le cadre du parcours additionnel art du spectacle, qui est, comme vous le savez bien, une option parmi les autres, c'est-à-dire 6 heures supplémentaires des cours sur le cinéma, la danse, le théâtre, la chanson, tout au long de votre licence.
Comment est-ce que vous avez construit vos cours ? Qu'est-ce que vous aviez envie d'amener aux étudiants ?
Comme on travaille sur la culture, je souhaitais à travers mes cours faire de mes étudiants des vrais agents de l'action culturelle. C'est pour cela que chaque cours comportait tout d'abord, bien évidemment, le volet théorique et le volet de savoir-faire, mais par la suite, chaque cours débouchait fatalement sur un projet collectif que nous lancions et par la suite que nous présentions au public. Et c'était pas forcément le public étudiant, mais le vaste public de la ville de Tours qu'on a essayé de toucher à travers les réseaux sociaux, à travers les lettres d'information de l'université et également du service culturel, à travers les lettres d'information de Crous. Voilà.
Est-ce que vous voulez nous parler peut-être de quelques projets qui ont eu lieu, qui sont terminés, que vous avez fait cette année ?
Parmi les projets récents, on pourrait mentionner par exemple, je pourrais vous parler rapidement en fait de 2 derniers projets. Donc le premier, c'était l'expo « Vivre les yeux ouverts ». Ce qui était une expo de collages. Quand je dis de collages, j'entends les collages traditionnels, c'est-à-dire les petits bouts d'un peu n'importe quoi bricolés. Donc le collage traditionnel surréaliste. Quand je dis le collage, c'est aussi le photocollage dans la tradition de Hockney ou ce genre de choses, dans l'art contemporain. Quand je dis collage, c'est aussi le vidéocollage, c'est-à-dire ce qu'on appelle les films de réemploi, les films qui font alterner d'une part les morceaux, les extraits de films anciens, des films bien connus, et d'autre part qui rajoutent à ces extraits une sorte de séquelle contemporaine. Donc on a eu ces 3 types de collages qui ont été réalisés par nos étudiants en hommage aux documentaristes de leur choix. Avec l'idée, quand je dis un hommage, c'est pas parce que l'université et l'enseignement, c'est une des institutions patrimoniales et muséales qui chercherait à faire durer la mémoire de ceci ou de cela. C'est pas dans cet esprit muséal, poussiéreux, en fait, qu'on a conçu cette idée de l'expo hommage. Non, inversement, en fait, on a conçu l'idée de cette expo hommage en tant que peut-être la tentative de faire durer, ou la tentative surtout de faire revivre, en fait, certaines expériences d'engagement des documentaristes anti-guerre, des documentaristes écologistes, des documentaristes féministes. Donc on a essayé, partir de leur expérience, de ces expériences de gens hyper courageux qui ont eu l'audace de vivre les yeux ouverts et qui ont également eu l'audace de vouloir partager cette démarche audacieuse avec leurs contemporains. Et c'est pour cela qu'on a essayé de refaire quelque chose de similaire en partant des défis de notre 21e siècle. Je remarque que la présentation qui était censée être concise dure déjà un petit moment. Donc on a inauguré le 12 mars, si je me souviens bien, et en fait qui a été visible à l'université de Tours pendant une quinzaine de jours. Avec notamment la soirée du 12 mars, en fait, la soirée inaugurale, la soirée où on a fait le vrai vernissage, où chaque artiste qui a réalisé son collage présentait à la fois son œuvre. Donc on a fait une petite visite guidée par les artistes, où chacun présentait son collage, donc son œuvre, et il présentait également l'intention, où il faisait part de l'intention qui était derrière le choix de telle ou telle problématique sur laquelle il travaillait. Voilà, ça c'était un projet, et pour le deuxième, on ira plus vite. Le deuxième projet qu'on a fait tout récemment, c'est-à-dire il y a un mois, si vous étiez au Tanner, vous auriez pu participer à ce qu'on a appelé avec nos étudiants les ciné-breakfast ou les ciné-matinées à Tours. C'était les séances de médiation culturelle très original. Donc on a eu les ciné-quiz, les ciné-concerts, les ciné-débats, les ciné-breakfast également. C'était les séances de médiation consacrées à des films contemporains d'accès difficile. Donc soit les films étrangers, où ce qui fait obstacle, c'est l'étrangeté de la culture qu'on ne connaît pas, ou bien c'était les films expérimentaux, difficile d'accès à cause d'un langage cinématographique assez branché. Ou bien on a choisi les films contemporains qui abordaient des sujets sociétaux très clivants et où l'obstacle a été dû peut-être à la partialité qu'on éprouve face à ces sujets, à des sujets comme l'euthanasie ou la violence faite aux femmes, par exemple.
Donc tout ça, c'est des projets qui ont vraiment une dimension professionnelle. L'idée, c'est vraiment aussi de sortir les étudiants, peut-être pas du confort, n'exagérons rien, mais de l'amphi ou de la salle, et du coup d'aller vraiment vers le public avec lequel ils aimeraient travailler après. Finalement, ils leur demandaient aussi de prendre un risque quand même, parce que l'idée d'être artiste et de se mettre en scène quelque part, de parler devant le public dans un micro, c'est quand même quelque chose de pas forcément évident pour un étudiant.
Bien sûr, c'était quelque chose, c'est tout sauf évident. C'était justement la direction en fait dans laquelle moi je souhaitais avancer, mais comme on n'est pas sous un régime totalitaire, hélas, même si en bon autocrate j'aimerais bien imposer mes règles à mes étudiants, mais du coup, on n'est pas quand même dans cet état d'esprit. Et c'est pour cela, comprenant bien en fait, la difficulté pour les étudiants d'assumer ce rôle d'artiste ou d'assumer ce rôle de porteur d'un projet face à un vrai public, comprenant bien en fait, la difficulté de la tâche, j'ai proposé au début de chaque cours à mes étudiants le choix entre les deux programmes. Donc, un programme du cours qui est traditionnel, ou quand je dis traditionnel, c'est-à-dire CMTD, on reste dans la salle de cours et on ne sort pas forcément de la zone de confort. Chacun a son rôle, la répartition du rôle est claire et dans ce cas-là, les risques sont moindres. Et d'autre part, il y a eu le deuxième projet que je propose toujours à chaque première séance de chaque cours. C'est le projet qui cherchait inversement transgresser les frontières entre l'université et la ville culturelle et la vie de la ville. Et c'est le programme du cours qui vise à la fin la présentation d'un projet personnel, même si souvent c'est un projet collectif, mais quand même c'est le projet initié par les étudiants et qui reflète la sensibilité des étudiants et leurs préoccupations. Et donc ce deuxième projet vise en fait en dernier terme la présentation de ce projet personnel à un public autre qu'un public étudiant. Voilà, et c'est les étudiants qui, par le biais d'un vote démocratique, choisissent le programme Je pense que j'étais bien lotie cette année, puisque, heureusement pour moi, cette année, tous, ils ont voté pour les programmes qui privilégiaient justement l'ancrage de l'apprentissage dans la vie culturelle. C'est ça ce qui nous a amené à réaliser, en fait, les projets culturels, comme ces deux que j'ai évoqués tout à l'heure.
Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Vous dites, heureusement pour moi, ils ont choisi les projets alternatifs, disons. Mais ça révèle aussi une position particulière face à l'apprentissage. Vous êtes vraiment plus dans l'apprendre en faisant que d'être, de dire que l'université, c'est un lieu où on se remplit seulement de savoir. Et là, en fait, il y a aussi l'idée d'apprendre des choses, bien sûr, mais d'en faire quelque chose tout de suite. Et en plus de ce que vous dites m'interpelle, c'est de dire quelque chose de personnel. Parce que souvent, on a l'impression que les travaux universitaires ne sont pas personnels, justement.
Pour moi, c'est quelque chose de très important dans ma propre... dans ma réflexion sur ce que je fais en tant qu'enseignante. Puisqu'ayant fait d'assez longues études, bac plus 12, j'ai eu beaucoup de temps pour comprendre que tout ce que j'ai assimilé comme une somme de savoir, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup duré. Même si j'étais consciencieuse et sérieuse en tant qu'étudiante, la plupart du temps, assez souvent, les connaissances de dates, de méthodologie, de textes théoriques appris par cœur, disparaissaient, on va dire, 10 jours après l'examen. Ça se comprend aussi, le disque dur a la capacité limitée, pour pouvoir télécharger la nouvelle dose d'informations, il faut effacer les informations précédentes. Comme notre vie est très très rapide aujourd'hui et que la circulation d'informations est aussi très rapide, il faut qu'on efface le disque dur de notre mémoire assez régulièrement pour le remplir de nouvelles informations. L'ayant constaté pour moi-même, je cherchais une manière pour que les connaissances, les savoir-faire restent. Aussi, en partant de ma propre expérience, en fait, je me suis dit que ce qui restait pour moi, c'était en fait les savoirs et les savoir-faire que j'ai acquis pour dire des choses qui me tenaient à cœur. Donc si je partais dans le désir de faire, de dire, de montrer, de faire voir, et que j'ai accumulé les connaissances théoriques et les savoir-faire chemin faisant, c'est-à-dire en cours de réalisation de tel ou tel projet, dans ce cas-là, c'est le savoir-faire que je garde jusqu'à présent. Puisque c'est quelque chose, en fait, qui est intériorisé, c'est intégré dans une démarche existentielle, et comme ça, c'est quelque chose qui reste malgré le temps qui s'écoule. Et c'est pour ça, en construisant mes enseignements en tant que professeur, je cherche quelque part à reproduire c'est ce qui a fonctionné pour moi. C'est-à-dire partir toujours de leur sensibilité, de leurs préoccupations, de leurs peurs, de leurs angoisses, de leurs tentations, de leurs désirs. Montrer quelle place, montrer comment on pourrait articuler cela nettement, montrer quelle place un tel projet, quelle forme un tel projet pourrait prendre dans la vie culturelle de leur ville, de leur région, de leur pays, et par la suite apprendre à faire étape par étape. Et je suis persuadée que si, bien évidemment, je reste enseignante et je reste aussi, on va dire, un être de livre, c'est-à-dire un être qui fonctionne avec les théories, avec les citations, avec les méthodologies, avec les approches. Donc ça, je ne peux rien y faire. Et bien évidemment, je trouverai toujours, pendant la réalisation de notre projet, un moment où j'ajouterai en fait un volet explicatif pour donner les informations plus théoriques ou les informations de l'ordre méthodologique qui vont renforcer la démarche collective qu'on est en train de réaliser. Voilà. Donc je trouverai toujours en fait un moment, j'espère un bon moment propice, parce que chaque chose doit sonner juste et doit tomber un bon moment dans la vie. Il faut trouver une fenêtre temporelle en fait où certaines choses qui sont dites vont faire, en fait, vont aller directement vers le public concerné. Et donc, j'espère avoir senti certaines fenêtres temporelles s'ouvrir. Et à ce moment-là, bien évidemment, en fait, j'ai raconté. Et vous savez que par hasard, ce qu'on fait, c'est quelque chose qui a été déjà fait. Et c'était une stratégie de s'adresser au public qui a été inventée par monsieur un tel, madame une telle. Et que ça a été par la suite expérimenté par d'autres artistes ou intellectuels, etc. Et donc du coup, bien évidemment, ces informations, les informations traditionnelles qu'on a l'habitude en fait d'apprendre à l'université, ont eu leur place et ont eu quand même une place assez importante en fait dans nos enseignements. Sauf que à chaque fois, ces informations ont été amenées pendant la réalisation de notre projet collectif, et ces informations en fait ont été amenées pour permettre la meilleure réalisation de ce projet. Et je pense que c'est par cette inscription du savoir théorique et du savoir-faire dans la démarche personnelle des étudiants qu'on parvient à construire les socles des connaissances solides.
Quel sens ça a, en fait, pour vous, de dire à des jeunes gens qui ont 20 ans, en fait, c'est votre singularité, c'est vos aspirations personnelles qui ont de l'intérêt, en fait, qui feront la valeur du projet. Quel effet ça a sur eux aussi d'entendre ça ?
Des fois, il y a un effet de stupéfaction, et par la suite, le premier effet, c'est toujours l'effet de retrait, qui est l'un des mécanismes de défense, puisque porter un projet, c'est se dévoiler, je dirais pas se mettre à poil, mais quand même se mettre quelque part, en fait, c'est se dévoiler dans le plus intime qu'on est, c'est se dévoiler dans ses aspirations, dans ses rêves, dans ses désirs. Donc c'est vraiment révéler ses fragilités quelque part. Et donc, porter un projet, c'est toujours lié à une prise de risque. Donc, c'est pour cela, la première réaction, c'est toujours la réaction de retrait. On commence à tout de suite par me dire, bon, on n'est pas professionnel pour le faire, ou on n'est pas encore une maturité permettant de dire quoi que ce soit qui serait susceptible, en fait, d'intéresser un public. Mais ça, c'est une réaction de retrait qui me, en fait, que je constate régulièrement. C'est pour ça qu'elle me surprend plus. Et à partir, en fait, de cette première réaction de retrait, vous n'essayez de rien atténuer. En fait, pour être franche, il ne faut pas atténuer la prise des risques. Il faut dire que le moment qu'ils vivent, c'est-à-dire ces moments, on va dire, de fin adolescence, début de la vie adulte, en fait, c'est un moment très singulier où plusieurs choix sont pris pour la vie. Qu'est-ce qu'on devient, en fait? Quelle posture on choisit dans la vie? On est un révolté, on est un tête à l'air, on est un confiant, un crédule, un combattant. En fait, c'est un moment où plusieurs choix se font pour la première fois et aussi, je dirais pas pour la dernière, puisque la vie, elle est quand même longue et heureusement, en fait, elle est quand même pleine de rebondissements bien spectaculaires. Plusieurs choix qu'on fait à ce moment assez important, en fait, qui correspond aux années étudiantes, ce sont les choix qu'on fait pour la première fois d'une manière tout à fait autonome. Et ce sont les choix qui restent avec nous très longtemps, voire peut-être pour toute la vie. Et parmi ces choix aussi, en fait, l'un des choix, c'est le choix de la posture de sujet. Est-ce qu'on s'assume comme celui qui a quelque chose à dire et qui a le droit de le dire, ou est-ce qu'on va se positionner, et donc se subjectiver également, comme quelqu'un dont la parole est sans valeur? Et en fait, ce sont les rôles de sujet, les postures de sujet qu'on assume et qui ont des conséquences très sérieuses pour toute notre vie. Puisque si, en fait, on a la tendance de se dire que ma parole ne compte pas ou j'ai rien à dire, si on a la tendance, si on prend l'habitude d'assumer cette posture-là, qui a ce confort, c'est qu'on a toutes les chances, en fait, de garder cette même posture en sortant de la fac. À la fac, où quand même le cadre est quand même assez protecteur et assez favorable aux étudiants par rapport à la vie, on va dire, à l'extérieur, aux jungles du marché de travail. Donc à la fac, où on a ces cadres relativement confortables, c'est peut-être le moment pour assumer le rôle du sujet. Et c'est peut-être le moment de se rendre compte que, bien sûr, parler, c'est un risque. C'est un risque de se dévoiler, c'est un risque d'être mal interprété, c'est un risque d'être agressé, voire agressé physiquement à cause des propos qu'on tient, à cause des positions qu'on défend. Mais c'est un risque qui, quelque part, est synonyme de la vie. La vie est plein de risques. Une fois outre tombe, en fait, tout sera sûr et par la suite, il n'y aura plus de risques à prendre.
Oh,
Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Donc en faire des jeunes gens vivants, c'est un beau programme déjà. Est-ce qu'ils ont conscience, à votre avis, de toute cette réflexion que vous menez autour de votre façon d'enseigner? Est-ce que vos étudiants mesurent en fait tout ce cheminement intellectuel que vous faites pour leur proposer des choses?
Non, je pense pas. Même les collègues, en fait, je pense pas qu'ils comprennent qu'il s'agisse d'une démarche intellectuelle. Quand je dis une démarche intellectuelle, c'est pas pour donner l'air à un tel ou, mais c'est pour dire qu'il y a une réflexion en fait qui aboutit à des manières de faire. Assez souvent, ça c'est la perception à la fois des étudiants, je pense, d'une bonne partie de collègues. Assez souvent, on dit c'est votre manière de faire. C'est comme si c'est votre naturel, c'est votre personnalité, ça vient tout naturellement. C'est-à-dire, vous êtes comme cela, c'est votre manière d'exister. C'est votre manière de percevoir le monde, et c'est pour cela que vous ne pourrez jamais faire autrement. Vous le faites spontanément, d'une manière irréfléchie. Vous êtes comme ça, vous faites comme ça. Alors que, en fait, j'ai quand même essayé, et je continue, heureusement, ça fait l'intérêt de métier, je continue à essayer d'autres manières de faire. L'année prochaine, en fait, si j'enseigne, j'enseignerai forcément différemment, pas entièrement. En fait, j'aurais quand même, puisque j'aurais vécu quelque chose, donc ça m'aura transformé. J'aurais enseigné aussi, en fait, différemment. Je pense pas que cette dimension, on va dire, vraiment constructiviste de manière de faire, j'ai construit quand même. Mon cours, j'ai construit ma manière d'agir. Je ne pense pas que cette dimension du constructivisme social, on définit l'objectif et par la suite on calcule les stratégies pour y parvenir. Je ne pense pas que cet aspect du constructivisme, en fait, dans le comportement d'enseignante que je suis, est perçu par les étudiants. Mais tant mieux.
Ça pourrait peut-être les effrayer. Et avant de parler du dernier projet que vous avez en cours, par curiosité, parce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez fait 12 ans d'études après le bac. Est-ce que vous avez envie de nous dire qu'est-ce que vous avez étudié en fait pendant ces 12 années ?
12 années, c'était... dans les 12 années, la moitié, c'est la thèse qui était longue. C'était la thèse en littérature française contemporaine, donc 20e, 21e siècle. Et puis, avant cela, c'était un master en théorie de littérature et histoire au pluriel des littératures plurielles. Européenne plurielle. Et bien avant cela, c'était la licence de lettres modernes, ce qui fait ensemble une douzaine d'années.
Voilà, et alors ce dernier projet, qui était quand même le but premier de cet enregistrement, c'est un projet autour de la ville. Est-ce que vous voulez nous expliquer de quoi il est question ?
Donc c'est le projet qui porte un intitulé double. La ville nous appartient. C'est le projet, en fait, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est en cours. Et c'est pour cela aussi que je suis particulièrement heureuse de pouvoir parler au public de la radio Campus Tour aujourd'hui. Puisque j'espère que quelque part, grâce à vous, nous allons pouvoir peut-être recruter des nouveaux participants à ce projet. L'objectif de ces projets, peut-être le point de départ de ces projets, c'est quelque part le constat qu'on est amené à vivre en fait dans un espace qui ne nous appartient pas forcément, dans le sens où nous sommes amenés à vivre dans une ville, dans un pays, dans une région où les infrastructures, les bâtiments, les manières de circuler, les habitudes, y compris les habitudes culturelles, ont été construites bien avant en fait notre arrivée ou notre naissance même. Et donc, quelque part, on est amené à vivre, supposons, dans la ville de Tours, sans forcément que cette ville soit à notre mesure. Et donc, on vit dans un environnement, bon, c'est un beau cadre, c'est un bel environnement, bien sûr, mais des fois, on pourrait sentir la distance envers le cadre de vie qui est le nôtre. Dans ce cas-là, en fait, le cadre de vie, c'est le cadre urbain de la ville de Tours. L'objectif dans ce cas-là de notre projet, la ville nous appartient, la vie nous appartient, c'est de s'approprier cet espace que nous n'avons pas conçu, que nous n'avons pas construit, mais que nous devons quand même habiter. Le message principal du projet, c'est que même si on n'est pas architecte pour faire en neuf les bâtiments, même si on n'est pas ingénieur pour percer à nouveau les boulevards, les allées, pour faire la circulation en ville, même si on n'est pas maire ou les hauts fonctionnaires d'État pour redéfinir les priorités culturelles de la région, mais on est quand même humain et on est citoyen, et en cela, la ville nous appartient puisque la ville pourrait être, nous pouvons nous réapproprier la ville et notamment en remplissant ces cadres par des pratiques culturelles qui viennent de nous. Donc si on est musicien et qu'on a un groupe et qu'on chante avec son groupe dans le petit bistrot, dans des petites salles de concert associatives, rien n'empêche de faire un jour un concert dans un parc public, ou dans un hôpital, ou dans un internat pour les enfants en difficulté. Rien n'empêche de partager ce qu'on fait, ce qu'on aime faire avec le public, en l'inscrivant dans l'espace de la ville. Et dans ces cas-là, peut-être en remplissant l'espace urbain de nos activités, des activités que nous aimons, en fait, peut-être comme cela, nous pouvons franchir ces distances qui nous séparent de l'espace extérieur qui, des fois, est perçu comme hostile ou tout simplement étranger à nous.
Alors, comment on participe à ce projet ? Comment on fait ? On vous écrit, on vous envoie un mail, il faut raconter ce qu'on aimerait faire.
Vous pouvez en fait soumettre vos suggestions, bien évidemment comme d'habitude, voilà, un bon universitaire, j'ai parlé de tout, les objectifs, les points de départ, en fait les prémices intellectuelles et tout, je vais parler des manières de faire. Donc là, c'est l'occasion d'expliquer en quoi consisterait le projet et quels seraient les aboutissements, on va dire, concrets. Donc ce qu'on vise à faire, ce qu'on vise à faire, c'est deux choses. D'une part, tous les projets qu'on aura rassemblés, en fait, paraîtront dans une publication, on va dire une petite brochure, où les projets, seront illustrés par la suite par nos photographes et nos graffeurs. Donc du coup, en partant en fait des suggestions qui nous seront présentées sous une forme de description, en fait, en partant de cela, on va faire appel à nos photographes, à nos dessinateurs et graffeurs, en fait, qui vont s'inspirer de ce récit pour chercher à construire par la suite un photorécit, donc en fait pour construire en fait un récit qui mettrait l'un à côté de l'autre, d'une part en fait les images de la ville ou les dessins de la ville, et par la suite, d'autre part, en fait, les descriptifs de ces dont on souhaiterait remplir cet espace. Donc, il va y avoir une publication, en fait, classique, une brochure, que j'aurais un malin plaisir d'envoyer à la mairie. Et par la suite, la deuxième chose, en fait, le deuxième aboutissement de ce projet qu'on envisage actuellement, c'est une expo multifacette. Quand je dis multifacette, c'est une expo en fait qui comprendra tout type de présentation de projet. Donc il va y avoir les présentations sous forme d'essais traditionnels, voire les essais oniriques, quitte à être psychédéliques. Il va y avoir par la suite les photos commentées avec les légendes, donc les légendes précisant en fait comment on souhaiterait s'approprier tel ou tel espace. Et il va y avoir les modélisations, donc les modélisations en 2, en 3D, créées sur votre iPad ou sur votre tablette, qui en partant des endroits réels, vont essayer de nous donner en fait une idée de ce que ces endroits réels, des parcs, des rues, des bistrots, pourraient en fait de l'air que ça pourrait avoir si tel ou tel projet en fait y était réalisé. Par la suite, il va y avoir également les petits films plutôt sociologiques, donc les petits interviews avec les habitants. Pour quelque part zonder également, retranscrire leur perception de l'espace qu'ils habitent. Vraiment l'espace, c'est-à-dire c'est l'espace qu'ils habitent au jour le jour. Donc leur propre quartier, les chemins en fait qu'ils empruntent chaque jour pour aller au travail. Donc on va interviewer les habitants pour faire les petits vidéos, le petit film sociologique expliquant comment est-ce qu'on perçoit cet espace, quelle est sa zone de confort, de l'inconfort, et comment également on rêve des fois de le transformer. On a toujours des petits moments, des petits coups de cafard ou des petits moments où on a la confiance en soi, dans le monde, en fait, où on rêve de transformer l'espace qu'on habite. Et finalement, il va y avoir peut-être également les petites vidéos plus ludiques qui prendront la forme des féeries, donc qui donneront l'aperçu d'un univers fantasmatique, mais toujours ancré, en fait, dans un endroit, dans la ville de Tours. Donc vous pouvez avoir, en fonction de vos propres sensibilités artistiques ou en fonction de vos dons, de vos capacités, de vos désirs, vous pouvez, en fait, si vous le souhaitez, nous soumettre soit les essais, les poèmes, les chansons, les modélisations, les photos, les interviews, les films... des créations, des fictions, des petits films. Et puis, on va faire, en fait, l'expo avec les matériaux, en fait, qu'on aura. Et en essayant, en fait, dans la muséographie de l'expo, reproduire quelque part, en fait, les cartes de la ville. Bon, c'est un projet. Par la suite, on va, bien évidemment, composer avec ce qu'on aura récolté.
Et donc, on vous envoie ça à quelle adresse ? On envoie où ? Nos idées de projets pour la ville, ou des photos, ou des poèmes, comme vous venez de le dire. Où est-ce qu'on envoie tout ça ?
Donc, soit vous pouvez me l'envoyer sur ma boîte mail à l'Université de Tours. Donc, c'est anna2n.kryun. Donc, mon prénom, point mon nom de famille. @univ-tour.fr, ou bien vous pouvez également le faire par le biais de l'envoi dématérialisé sur l'autre messagerie que j'ai. Cette fois, il va falloir faire un effort puisque c'est en anglais. Donc c'est literature, la littérature avec un seul T en anglais, point contemporary, donc littérature contemporaine, mais en anglais. Et par la suite, c'est plus simple, @gmail.com. Et on verra, que vous soyez étudiant ou pas étudiant, Tourangeau, Tourangelle, ou des passages à Tours, tout comme moi, en fait, on sera toujours très heureux de vous, en fait, d'accueillir vos idées, vos projets, et de les intégrer dans le projet collectif que nous souhaiterions finaliser en début de l'année universitaire.
Voilà, alors avis à toi, ami étudiant, ouvrier ou paysan, tu peux participer à cette collecte de choses autour de projets autour de la ville de Tours. Est-ce qu'il y a une deadline, en fait ? Est-ce qu'il y a une date limite au-delà de laquelle, on ne pourra plus participer ?
Moi, je dirais fin août. Puisque si on souhaite avoir une bonne visibilité pour le projet, il faudra le faire, on va dire, vers le mois septembre, début octobre, chose comme ça, où on est encore plein de force et on est encore très ouvert à tout ce qui se passe autour. Donc si on souhaite se bloquer ce créneau, septembre, début octobre, dans ce cas-là, bien évidemment, en fait, il faut avoir tous les matériaux fin août.
Eh bien, merci à vous, et puis à bientôt sur nos ondes.
Radio Campus Tours, 99.5 FM.